Phil PM. La voie est libre.
Drouin, c'est la passe au centre et c'est l'attaque. Voilà, Drouin 2 contre 2 avec Gallagher. Ça mène au cercle, il lance. Gallagher revient avec une passe, le tir. Quel arrêt de but! Jonathan Drouin! Et voilà, Drouin, il s'avance, il est presque seul. Descend au cercle droit. Gopopila, il lance et goal! Jonathan Drouin! Son deuxième du match!
Ah, 5 up! Ça, et qu'on est de bonne humeur hein, quand on entend ça, bon Luc!
Et monsieur, que c'était tout un match de hockey. Et là, moi, c'est Jonathan Drouin. Jonathan Drouin, troisième choix au repêchage. Un joueur que j'avais découvert dans un championnat mondial de hockey junior où il avait été extraordinaire et même éblouissant. Il se retrouve à Tampa Bay, ça tourne un peu au vinaigre, il fait une grève, il revient, il fait pas trop jouer. Finalement, on fait un échange, puis on leur donne pas rien, on leur donne notre meilleur espoir, Sergachev. Il arrive à Montréal, puis on voit son talent, on voit des flashs, hein, mais il fait une saison bien ordinaire l'année passée. Cette année, il y avait un début de saison assez lent, soudainement, dans les trois derniers.
Avec Domi, ça a quand même parti assez bien.
Assez bien, mais ça s'est calmé rapidement. Là, c'est 9 points en 3 matchs. 9 points en 3 matchs, dont 4 hier, 2 buts, 2 passes. Ouais. Et pas n'importe quoi.
Non.
Ce gars-là me semble être le premier depuis Guy Lafleur à arriver avec ce type de talent époustouflant, étourdissant.
Voilà. Et voilà.
Et vraiment,
écoute,
ce gars-là...
Quand il est arrivé, il faut que je te dise, excuse-moi de t'interrompre. Quand il est arrivé, moi là, qu'est-ce que tu veux? J'ai grandi comme toi là, avec la coupe en 76, 77, 78, 79. Bon, puis les séries contre Boston, puis tout ça. Puis effectivement, le dernier grand marqueur que j'ai vu, moi, c'est Lafleur.
L'habileté, le côté explosif. Là.
Oui. Je me souviens un petit peu de Béliveau, mais moi, là, c'était vraiment Lafleur. Bon, quand arrive l'échange Sergachev contre Drouin, je dis avec toute mon innocence puis mon manque de connaissances, écoute, je pense qu'on vient d'aller chercher quelque chose qui ressemble un peu à Guy Lafleur. Là, j'ai fait rire de moi un petit peu, comprends-tu? Ben, c'est correct, ça me dérange pas.
J'étais du même avis, moi, Bernard.
T'es habitué, tu sais. Mais là, écoute, je le regardais jouer hier, là, puis avant-hier, puis l'autre avant-hier, là, le côté explosif, les cheveux qui revolent, puis tout, là, écoute.
Les habiletés, la vitesse. Oh. Parce que c'est clair que l'équipe des Canadiens de Montréal que Bergevin a bâti avec Claude Julien, il faut lui donner le crédit aussi, c'est une équipe qui repose sur la vitesse, sur le tempo très, très, très élevé. Et on l'a vu hier, ils deviennent complètement étourdissants quand ils ont leur synchronisme. C'est une équipe parmi les plus spectaculaires de la Ligue.
Ah oui, écoute, puis là j'ai un bon ami, un de mes meilleurs amis, il s'appelle John Carlos, c'est un Torontois. Puis là, il descend à Montréal en fin de semaine, OK? Puis je m'en vais voir la partie avec lui.
Oui.
Puis il n'arrête pas, depuis le début de la saison, comme on dit en bon français, il me gosse, tu comprends?
Oui,
Parce que lui, il est convaincu là, que Toronto, là, ils ont l'équipe pour se rendre jusqu'au bout cette année, tu comprends?
C'est pas le cas. Puis,
OK, bien, moi, je ne sais pas. On verra bien. Mais ils ont une bonne équipe. Ils ont quand même une bonne équipe, Toronto.
Oui, oui. Ils ont du talent.
Ils ont une bonne équipe. Mais là, écoute, il s'en vient demain, comprends-tu? Puis là, j'ai commencé à le texter puis à le taquiner. Parce que là, je dis, ah ouais, viens-t'en, toi. Prends-la, la 401. Viens-t'en nous voir à Montréal. J'ai dit, t'as-tu vu la partie contre les Jets, tu sais?
Ouais.
Alors, je dis pas qu'on va gagner. Faut faire attention. Des fois, on s'enflamme. Mon Dieu, c'est vrai qu'on s'enflamme vite, nous autres, puis on tombe ça déprime aussi vite quand ça va pas bien. Mais là, écoute, ce qu'on a vu hier, Luc, là, c'est une équipe non seulement explosive, rapide et tout le reste, mais c'est une équipe qui est très, très confiante.
Oui, puis qui ont de l'air d'avoir du fun, tu comprends-tu? Ça, l'année passée, on ne voyait pas ça. On voyait des Pacioretty, puis on voyait des Galchenyuk. Ben, c'est pas du monde qui avait de l'air heureux. Les gars ont vraiment l'air d'avoir du plaisir. On dirait qu'ils se sont rappelés que le hockey, c'est un jeu. Alors, quand tu joues à un jeu, tu essaies de t'amuser. Alors moi, je suis ébloui de les voir aller. Même à la défense, tu regardes le jeune Mété, là, qui est le gars qui joue avec Weber. Écoute, il s'en vient quelque chose, hein? Puis hier, il y a eu deux belles occasions de marquer. Coup de patin formidable. Moi, je trouve que Jeff Petrie joue une saison qui est la saison de sa vie. Un talent aussi extrêmement évident.
Petrie, il est plus égal qu'il l'était.
C'est
par
ça,
le passé, il jouait des super parties, puis à un moment donné, il se mettait à faire des gaffes. Mais cette année, sa séquence, là, mettons, pendant laquelle il joue bien, est beaucoup plus longue que ce à quoi il nous a habitués par le passé.
Et moi, ce que beaucoup d'experts avaient dit, c'est attendez, quand on va avoir traversé la mi-saison, Les Canadiens, ils vont commencer à se heurter à des équipes qui augmentent le tempo parce qu'elles s'en vont vers la Coupe Stanley ou qu'elles pensent avoir une chance de se rendre à la Coupe Stanley. Bien là, on l'a passé, ce moment-là, depuis plusieurs parties. Il en reste quoi, 28, je pense, sur 82. Et écoute, non seulement ils diminuent pas le rythme, non seulement ils sont aussi bons, ils sont encore meilleurs. On dirait que le jello est plus pogné que jamais.
Oui. Écoute, toi là, qui as quand même fait dans la gestion d'entreprise, là, je vais te dire, je pense que si jamais on se rend, là, mettons qu'on fait un bon bout, là, mettons qu'on maintient tempo-là, puis on reste bon, excitant, puis on fait une série, je dis pas qu'on gagne la coupe, là, mais mettons qu'on fait une bonne performance, là. Écoute, je pense que le cas de Bergevin, dans la manière avec laquelle il a reviré la situation, prendre une équipe de perdants avec le moral à terre, et il revirait ça en l'espace d'un été au terme d'un certain nombre de transactions et de décisions bien avisées. Puis je ne veux pas remettre le fer dans le plaid de ta déclaration de tout le monde en parle. Là, je ne suis pas du tout là que je veux aller. Mais
je me suis corrigé.
Je sais, tu t'en es absolument. Puis je ne veux pas retourner là. Puis tu le fais avec élégance puis avec humour. C'est bien parfait. Mais tu sais, Bergevin, on était tout prêts à le crucifier, à le jeter au vidange, comprends-tu? Et puis là, on se dit. Écoute, une chance que Molson l'a gardé, parce que tu regardes les décisions qu'il a prises, ça s'additionne, et bon, il y a une part aussi, je pense, de nouvelle chimie qui fait qu'il y a des affaires qu'il avait pas, que lui-même n'avait pas anticipées qui sont en train de se produire. Là, tu sais, en politique, on dit, quand ça va bien, ça organise bien.
Ouais, c'est
mais
vrai,
j'ai l'impression qu'au hockey, quand ça joue bien, puis quand on gagne, on y prend goût, puis on devient meilleur.
Il faut aussi, Bernard, rendre hommage à Claude Julien. C'est un gars qui a commencé dans la Ligue nationale à Montréal. Il est parti. Je pense, est-ce qu'il a gagné une Coupe Stanley au New Jersey? Je crois que oui. Il en a gagné une à Boston.
Non, à Boston. Boston.
Oui,
Boston, Claude-Julien, Boston.
Oui, c'est ça. Mais il n'a pas gagné à New Jersey aussi?
Je pense pas, non.
Non, mais en tout cas, c'est un gars qui se retrouve à Montréal. Beaucoup d'années d'expérience. Mais on disait, mais ça ne donne rien. Regarde, l'équipe va nulle part. Écoute, qui a bâti ce système de jeu, bâti ou construit autour de la vitesse? C'est lui. C'est lui, ça. Faut que tu le dises au gars. Là, écoute, c'est toujours à plein patin. C'est pas de temps en temps que tu es capable d'exploser au moment voulu. Non, on diminue jamais la vitesse. Même quand ils font des sorties de zone, as-tu vu à quelle vitesse ils exécutent? C'est incroyable. Et évidemment, leur jeu de passe est remarquable. Les passes de Max Domi, c'est d'une précision, mais c'est extraordinaire. Et Drouin aussi, Philippe Dano. Philippe Dano.
Si tu permets, je vais demander aux gens là, qui ont vu le match là, ou qui ont le goût d'en parler. Là, on a quelques minutes, 7-9-0, 9-8-5-0. Si ça vous tente de venir partager votre enthousiasme ou peut-être de mettre un petit peu d'eau froide sur notre effervescence. Peut-être qu'on monte trop vite dans l'espoir et dans l'allégresse.
Dans le rêve.
Le goût de nous ramener dans le rêve, ben oui, 790-9850 ou encore par texto 98985. Qu'est-ce que je voulais dire?
Carey Price est redevenu le grand Carey Price l'année qu'il avait gagné le Trophée Hart.
Vraiment. Mais je veux juste revenir sur Julien.
Oui.
Rappelle-toi l'année passée quand tout allait mal. Et puis, il prenait la parole après chaque match, puis je me mettais dans sa peau, puis je me disais, quel calvaire. Il essayait de trouver quelque chose d'un peu positif à dire à travers la déprime totale dans laquelle on vivait. J'ai des appels déjà, c'est Patrick?
Effectivement, Patrick. Bonjour, Mathieu.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Il y a un des éléments que vous n'avez pas soulevé encore, je crois, qui est important. Vous avez parlé de Claude Julien, oui. Mais M. Dominique Ducharme, son arrivée a changé drastiquement la façon de gérer l'équipe du Canadien. On a vu des choses complètement différentes de l'année dernière. Et je pense qu'il y a un très gros mot à dire dans le nouveau visage du Canadien.
Bon, ben c'est bon
c'est
de le souligner.
Intéressant. Très intéressant, Patrick. Puis effectivement, moi, je ne le connais pas beaucoup, cet entraîneur adjoint. Là. Je ne le connais pas beaucoup. Je pense qu'on va apprendre à le découvrir, Luc, parce que j'ai l'impression que c'est un gars qui va devenir, à un moment donné, entraîneur en chef.
Mais d'autres sont très critiques à son égard parce que notre attaque à 5 recommence à fonctionner, mais ça a duré longtemps sans fonctionner.
Bon, j'ai Benoît, c'est bien ça? Bonjour, Benoît.
Oui, c'est ça. Salut, ça va bien?
Oui.
Très bien, très bien.
Oui, oui, je regardais le match hier, puis je me demandais, Jonathan Drouin a peut-être lu le journal là, de l'article de Bertrand Raymond, là, ben, c'était sur RDS, là, peut-être, là, c'était peut-être plus ce journal. Il est en retraite, mais ça le fouettait un peu, fait, je me demande s'il avait lu le journal là, qui... Parce qu'on sait qu'il n'y a pas des
performances très égales. Benoît, qu'est-ce que ça disait en résumé? Parce que c'est un chroniqueur que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, moi.
Ben, ça le fouettait là, dans le sens qu'il ne travaille pas de façon égale. Il y a des journées, il est explosif comme hier, puis il y a d'autres journées, il est carrément invisible. Là, fait que ça résume en gros ce que ça disait. Là. Puis il parlait de Mario Tremblay, puis tout ça, là, de qu'eux autres, quand ils embarquaient sa glace, c'était un peu comme Gallagher. Là. Il vidait la tank à chaque présence.
Oui. Mmh. Et Drouin bon semble être rendu là, là. En tout cas, dans les trois derniers matchs, c'est dur d'y en demander plus.
C'est ce que j'allais dire, ben, dans les trois derniers matchs.
Ça va être inspirant, en tout cas, comme ça, ça annonce. Ça augure bien pour la fin de l'année.
Et qu'on aimerait tout ça avoir des bonnes séries.
Merci, Benoît. Oui, Mo, t'as dit qu'on aimerait ça, certain. Stéphane, bonjour.
Bonjour, messieurs. J'espère que ça va bien.
Oui.
Très bien, très bien.
Écoutez, moi, ce qui me frappe cette année, j'écoute les matchs. Moi aussi, je suis un grand amateur de hockey, du Canadien en particulier. J'écoute les matchs cette année. Puis ce qui me frappe le plus, c'est le sourire qu'on voit sur le banc. Puis je pense qu'en grande partie, je pense, ben, je ne veux pas dire que c'est seulement que lui, là, mais je pense que Kotkaniemi, avec son sourire, sa fraîcheur amène vraiment. Moi, en tout cas, ça me frappe à tous les matchs. Il a tellement de l'air bien pour avoir du fun, puis tellement simple que ça reflète sur les autres joueurs, puis Domi, puis ça. Je pense que c'est vraiment un gros point. Là,
c'est ce que je disais. C'est ce que je disais tantôt quand je disais l'équipe a de l'air d'avoir du plaisir.
Oui. Ouais. C'est ça. On joue des ligues de garage, là, puis écoute-moi, là. Vous, des ligues derrière, sur la femme. Puis quand on joue du monde sur le banc, on a du fun, puis que les gars sourient, tu sais, des fois, il y a des remplaçants qui viennent, des fois, il y en a qui ont de l'air bête un peu, blablabla. Mais tu sais, ça reflète sur l'ambiance d'équipe, ça reflète. Imaginez-vous, à ce niveau-là, nous autres, on est des gars de garage, là, pour la femme, là, qu'on joue dans la semaine. Des fois, mettons, quand on joue quelqu'un qui a de l'air bête ou qui a le sourire, ça fait toute la différence. Mais à ce niveau-là, ça doit être...
très stimulant, beaucoup, oui, absolument. Ça doit mettre de la bonne humeur dans la chambre. Là.
Ben oui, ben oui,
quand t'as une gang de Monsieur Baboune sur le banc, là, comme on avait l'année passée, là, m'a dit, ça te donne pas le goût trop d'aller jouer pour l'équipe.
C'est carrément frappant cette année, la différence.
On a oublié de parler de Victor Mété aussi. Il y a eu une mauvaise passe avant les fêtes. On l'a même envoyé pour 3-4 matchs avec les Rockets de Laval. Là, il joue sur la première paire de défenseurs et de plus en plus, il fait sa place. Il y a eu deux chances de marquer hier, très solides. Un gars rapide, une espèce de patinage, de patin fluide, là, un gars qui accélère très rapidement, un gars qui a le sens du hockey. Il n'a évidemment pas la taille de chez Weber, c'est malheureux, mais c'est ainsi. Mais c'est quelque chose qui va nous donner dans l'avenir un joueur de défense formidable, il y a 20 ans.
Là, Luc, juste avant d'aller à la pause, il faut que je vous donne des nouvelles là, du procès.
Oui, la sentence.
Le juge Huot estime que le cumul des peines est inconstitutionnel en vertu de l'article 12 de la Charte des droits et libertés compte tenu de l'âge de Bissonnette. Et là, il prend une pause. Fait que là, Luc, ça veut dire là, il n'ira pas à coup de 25 ans. Là. Je ne sais pas où ce qu'il va finir, mais en tout cas, ils viennent de s'arrêter encore une fois au palais de justice de Québec.
Me fait penser? On dirait que ce juge-là a écouté l'émission Le Banquier avec Julie Snyder, là, tu sais. Et après la pause,
Oui, il maintient le suspense. Il maintient le suspense.
Je me demande si c'est pas un peu caricatural tout ça, là, mais enfin.
Oui, mais enfin, en même temps, cette cause-là est tellement, tellement sérieuse.
Oui, c'est clair.
C'est lourd de conséquences pour beaucoup de gens. OK, on va s'arrêter. Au retour, on continue.
Trainville PM. La voie est libre.
L'autre sujet dont on veut vous parler, c'est cette caricature d'un caricaturiste de Gazette très, très, très connu, Terry Mosher, qu'on connaît sous le nom de Ace Lynn. Il accuse en fait son journal de Gazette d'avoir refusé une caricature dans laquelle il fait un parallèle, une comparaison entre la CAQ et le Ku Klux Klan, le mouvement raciste anti-américain, là, la caricature, ce qu'on voit dans le fond, là, c'est le CAQ, CAQ, mais le A est en forme de triangle. Sur le A en forme de triangle est superposée la fameuse tuque blanche, là, la capine blanche des membres du Ku Klux Klan, du KKK aux États-Unis. Et évidemment, ça a suscité énormément de réactions, Luc, parce que même si elle n'a pas été publiée par The Gazette, elle s'est retrouvée sur les réseaux sociaux où elle circule.
Elle circule abondamment, oui.
Abondamment, là. Est-ce que tu trouves qu'il est allé trop loin, Aislinn?
Écoute, Aislinn, c'est peut-être le caricaturiste le plus célèbre au Canada, celui qui a eu le plus de retentissement, celui qui est le plus... Quand il y a des grands sites internationaux, entre autres sur Facebook, d'agrégateurs de caricatures, c'est un de ceux du Canada qu'on voit le plus souvent. C'est un gars d'un immense talent. C'est un Québécois qui vit au Québec et qui est né ici. Et ça descend, il est de la communauté juive, ça fait des générations qu'ils sont ici. Aislinn a toujours eu un punch un peu particulier. Il a toujours aimé la controverse. C'est un ami du Québec, sans aucun doute. Un de ses meilleurs amis, c'est Chapelot de la presse. Est-ce qu'il est allé trop loin? C'est un provocateur. Il a toujours aimé provoquer. Je pense qu'il est de la même école. Je le connais personnellement. Il est de la même école que Mordecai Rickler de Regretter Mémoire.
Moi, il m'a caricaturé une dizaine de fois, là. Juste pour que tu le saches, là.
Puis, t'avais l'air de quoi?
Une bonne dizaine de fois, là. Sais-tu quoi? Quand j'ai sorti de la politique, je l'ai appelé, puis j'ai acheté certaines des caricatures dont je faisais l'objet. Il était surpris, d'ailleurs, parce qu'il ne pensait pas, j'imagine, que je les avais appréciés à ce point-là, parce qu'il y en avait, évidemment, qui étaient assez féroces. Mais moi, je vis bien avec ça, là, quand tu décides de faire de la politique, puis de te retrouver dans la vie publique, il faut que tu vives avec ça. Je veux juste te lire, Luc, l'éditrice du Montreal Gazette a dit... à propos de sa décision donc, de refuser de publier là, la caricature dans le journal de samedi. C'est Philippe Tessera-Lessard qui nous rapporte ça. Elle a dit, donc l'éditrice de The Gazette, « Je ne pensais pas que c'était juste ou responsable de publier une caricature qui fait un parallèle entre le gouvernement du Québec élu démocratiquement et un groupe terroriste qui a assassiné des milliers de gens en parlant du Ku Klux Klan. »
Mais moi, je veux dire une chose à ce sujet-là. D'abord, la caricature comme exercice est, à mon avis, une des formes de journalisme les plus raffinées qui soient, parce qu'elle essaie de capturer en un dessin une situation. Des caricatures bien réussies, et on en a un magnifique ici, Chapelot, on a Côté, on a Y, évidemment, qui est formidable aussi.
Oui, vraiment.
Si je m'en allais prendre les caricatures de Trump, que je publie moi-même abondamment sur ma page Facebook. Donc, il est démocratiquement élu, comme ce gouvernement actuel ici au Québec. Et il a été associé à tout ce que tu peux trouver de plus affreux en Hitler et en Mussolini et en ci et en ça et en raciste. Bon, tu me diras, il a couru après, mais l'argument de Mme Chaudan, qui est l'argument de dire ben, un gouvernement légitimement élu, moi, je pense que ces caricatures-là qui existent, qui sont l'œuvre de gens aussi talentueux qu'Aislinn, devraient circuler, puis les gens devraient se fâcher s'ils sont fâchés. Mais une caricature, c'est une caricature, puis moi, la censure, j'ai jamais cru à ça.
Oui, mais là, ça va loin, là.
Oui, ça va loin. Je pense que la censure, c'est pas une solution à ces affaires-là, d'autant plus que tu l'as vu, là. Aislinn, hier... immédiatement a commencé à répandre l'idée « D'abord, on m'a interdit de publier ceci, voici la caricature, blablabla, blablabla, puis tout le monde l'a fait circuler. » En fait, cette caricature-là va devenir deux fois plus connue que si elle avait simplement été publiée dans la Gazette comme les caricatures d'Aislinn le sont.
Mais
moi, l'affaire, Bernard, je suis humilié, ça me tape sur les nerfs.
Je t'ai pas parlé d'humiliation.
Non, c'est moi qui en parle.
T'sais, ben oui, c'est ça. Fait que, mais ce qui va arriver, c'est que cette caricature-là, tu as raison, va être abondamment distribuée. Puis, il y en a quelques-uns dans le reste du pays qui ne manquent pas une occasion de nous verger dessus. Puis, c'est bien certain qu'ils vont pouvoir utiliser cette caricature-là, encore une fois, pour essayer de nous faire passer pour une gang de racistes.
Ça fait partie de la vie, là.
Hein, une gang de racistes.
Ça fait partie de la vie, là. C'est comme ceux qui font des caricatures pour faire passer les Américains pour une gang de morons. Tu sais, c'est pas une gang de morons, les Américains. On n'est pas une gang de racistes non plus, mais on n'est pas une gang de censeurs non plus. Si on a la sensibilité trop exacerbée, mais je veux dire, pensons à d'autres choses. Et cela, il s'en est tapé des joyeuses à travers le temps.
C'est un gars qui
n'a pas été avec le dos de la cuillère. Puis je veux te dire, la communauté juive de Montréal est une communauté qui est toujours aux aguets quand on en vient aux questions de droits fondamentaux. Puis on peut les comprendre. La communauté juive de Montréal, d'abord, elle se divise essentiellement en trois. Il y a ceux qui étaient ici depuis le 18e, 19e siècle. Il y a une première vague, vraiment, qui est venue au tournant de la Première Guerre mondiale. Ce sont des Ashkénazes qui sont arrivés. Puis vraiment, le grand nombre est venu le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les survivants de l'Holocauste. Et d'ailleurs, ultimement, il y a un autre groupe qui est arrivé. Ce sont les Séfarades venus principalement du Maroc. Alors, ces gens-là ont... ont une sensibilité extrême à tout ce qui concerne les questions de cibler un groupe, tout ce qui concerne les questions d'aller toucher aux droits fondamentaux, tout ce qui concerne les questions de liberté de religion. Oublie pas, parce que nous autres, on parle toujours du projet de loi de la CAQ qui n'a pas encore été déposé comme visant les femmes musulmanes. Mais oublie pas que les gens qui portent la kippa pour enseigner à l'Université McGill, ils ont un problème, eux autres aussi. Là.
Puis rappelle-toi, là, quand la loi 101 a été votée, là, René Lévesque et Camille Lorrain ont été dépeints, notamment dans des gazettes, comme étant des espèces de nazis. Là.
Oui, tout à fait.
Alors, faut pas perdre ça de vue. Et Luc, faut que je t'arrête, parce que j'ai Christian qui s'en vient et j'attends à tout moment une décision finale donc à Québec. Donc, je te laisse aller. Je te souhaite un bon week-end. On se reparle lundi.
Et on regarde la partie de samedi soir, puis on s'en parle.
Youpli! Bye. On s'arrête. Bye.